Réplique, les parents, avec Claire Baglin et Marie-Hélène Lafont. Marie-Hélène Lafont, romancière confirmée, publie Les Sources. Et c'est à nouveau un coup de maître. Claire Baglin vient de faire son entrée en littérature avec un roman remarqué et remarquable en salle. Si j'ai voulu réunir aujourd'hui Marie-Hélène Lafont et Claire Baglin, c'est parce que leurs deux livres atteignent la beauté par le réalisme sans phare et par l'économie de moyens. C'est aussi parce que la figure des parents y occupe une place centrale. Nous partirons de votre roman, Marie-Hélène Lafont. Vous l'avez intitulé « Les sources ». Que signifie ce titre ?
Il signifie que ce livre-là et toute l'écriture peut-être a pour source le lieu, le milieu, le moment, le corps de pays où nous avons commencé d'être et pris conscience que nous étions au monde. C'est la source inépuisable. Donc, c'est le titre de ce livre, mais ce pourrait être le titre de tous mes autres livres. Et quand j'ai ouvert le chantier de ce livre, j'avais déjà l'exergue, ce qui est rarissime. En général, je n'ai pas l'exergue. Et la dernière phrase de l'exergue, c'est « Il mord la source ». C'est le sanglier de Jean Giono dans Colline. Il mord la source. Je suis le sanglier.
Vous mordez la source, mais pourquoi n'avoir pas intitulé ce livre « Les racines » plutôt que la source ? Surtout que vous venez du monde paysan, Marie-Hélène Lafont.
Assurément, mais comme il est dit dans la dernière partie de ce livre, elle préfère le mot « source » au mot « racine ».
Elle, c'est la mère.
C'est la fille.
Ah, c'est la fille.
C'est Claire.
C'est Claire, oui, d'accord.
Elle préfère le mot « source » au mot « racine ». Et il m'a fallu du temps, en fait, pour me rendre compte que la fluidité, le mouvement, la dynamique, l'énergie et la douceur du mot « source ».
La douceur, c'est vrai.
Oui, bien sûr. La luminosité aussi du mot « source » épousait davantage le mouvement d'écriture qui est le mien depuis 25 ans, que le mot « racine ». Même si je ne renie pas le mot « racine » à cause des arbres, pour les arbres,
pour les
la
arbres,
grâce
oui.
des arbres, bien entendu.
Mais d'un autre côté, il est vrai que le mot « racine » a été compromis par le nationalisme fermé, par l'usage qu'en a fait Barrès. Et d'un autre côté, Simone Veil lui a redonner ses lettres de noblesse. Dans son chef-d'œuvre posthume, Simone Veil écrit « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. » Vous pouvez aussi vous reconnaître dans cette définition-là.
Absolument, dans cette acception qui n'a rien de rance, parce qu'il y a parfois des relents rance dans le mot racine qui ne sont pas évidemment présents dans ce beau texte que vous venez de lire. Évidemment, il y a de la fluidité d'ailleurs dans la dernière partie.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et un peu plus loin dans l'enracinement, Simone Veil écrit « Un système social est profondément malade quand un paysan travaille la terre avec la pensée que s'il est paysan, c'est parce qu'il n'était pas assez intelligent pour devenir instituteur. »
C'est moins une pensée qu'une assignation qui repose sur le regard des autres, souvent.
Souvent sur le regard des autres.
Bien entendu.
Alors, Claire Baglin, dans votre livre, En salle, vous avez choisi de faire alterner les scènes de l'enfance de la narratrice, son enfance, sa vie familiale, et les scènes de travail au fast-food, où elle s'est engagée pour une durée déterminée. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette forme narrative? Quel sens doit-on donner à une telle alternance, Claire Baglin?
D'abord, l'arrivée de l'alternance dans ce texte, c'est aussi la trace du travail d'écriture, puisqu'en fait, au départ, moi j'étais surtout centrée sur, en tout cas intéressée par l'usine, en fait. Et le fast-food est arrivé, en fait, au cours d'écriture, donc c'est la marque, en fait, vraiment de ce travail-là. C'est-à-dire qu'au début, l'usine était là, l'usine prenait toute la place, et je voulais tourner autour de cette usine, d'ailleurs. Et en fait, le fast-food a été une sorte de pierre de touche de cette usine parce que je n'arrivais pas à l'approcher. Elle était impossible à approcher, en fait. Je n'arrivais pas à l'incarner tout à fait. Je ne savais pas par quel bout la prendre, d'une certaine façon. Et le fast-food, qui est une expérience de travail que j'ai eue, est arrivé pendant l'écriture et est resté comme ça, en fait, comme une sorte de retour inévitable, en fait, dans l'écriture. C'est-à-dire que je revenais à cette expérience de travail-là, tout en ayant, en fait, plusieurs scènes de souvenirs qui, de la même façon, étaient obsédantes. Autant dans le fast-food, d'ailleurs, le fast-food était aussi obsédant que ces souvenirs qui en fait, s'accumulaient voilà, dans le travail d'écriture. Ces souvenirs-là s'accumulaient, et je ne savais pas vraiment pourquoi, autant que le fast-food arrivait, en fait. Voilà.
Vous ne saviez pas pourquoi. Donc l'usine, c'est celle où travaillait et travaille encore le père de la narratrice, votre père.
Tout à fait.
Parce que c'est quand même, ce roman est fondé sur votre expérience personnelle. Donc c'est arrivé comme ça dans l'écriture, mais pour vous, ça doit avoir un sens.
Absolument. Ce sens-là. Alors, au départ, en tout cas, l'alternance, moi, ça a été la lecture de W. Le Souvenir d'enfance, en fait, de Georges Perec. Même si on est très loin de cette alternance-là, mais je me souviens très bien que l'alternance est arrivée après cette lecture. Et je pense qu'elle serait pas arrivée différemment. Mmh. Et le sens, après, quel sens donner? Moi-même, je pense qu'il y a des sens que je connais et il y en a d'autres que je ne sais. Il y a des sens que je ne pourrais pas déterminer. Parce qu'en fait, il y a eu de la place aussi au hasard. Il y a eu beaucoup de construction dans une certaine période comme ça d'écriture. Où effectivement c'était une sorte de reflet, ou du moins on pourrait se demander si la narratrice au fast-food a pas des sortes de réminiscences, ou moins des souvenirs qui lui arrivent, et quelquefois c'est peut-être juste une sorte de mauvais rêve de l'enfance, puisqu'en fait les deux sont ne font que se croiser, et d'autres fois certaines scènes c'était juste apposées. Et c'était plutôt la place du hasard, en fait. Il y a eu les endroits où je construisais et les endroits où je ne construisais plus.
Cette alternance, elle est aussi temporelle, puisqu'on est tantôt dans l'enfance,
oui, tantôt, voilà.
ou la jeunesse, l'adolescence, et d'ailleurs c'est chronologique. On la voit entrer à l'internat, ensuite devenir une jeune fille qui a sa première expérience amoureuse. Donc on a cette alternance là aussi, avec, de façon très très systématique, celle des scènes dans le fast-food.
Tout à fait. Et après, alors c'est encore autre chose, mais les deux se croisent, oui. Et en même temps ne se croisent pas, dans le sens où, par exemple, les souvenirs ne sont pas rattachés forcément à la narratrice du fast-food, puisque en fait la personne qui est nommée Claire, d'ailleurs, dans la partie d'enfance, elle est nommée, la narratrice du fast-food ne le sera jamais. Mm-hmm. Et il y a toujours peut-être ce doute-là qui m'intéressait, justement, de ne pas faire une sorte de retour plaqué sur cette narratrice au fast-food.
Mais d'un autre côté, cette alternance, c'est aussi entre deux formes de travail. Le père est ouvrier dans une usine de pièces automobiles et il travaille à la maintenance. C'est bien cela. La narratrice, elle, donc, travaille dans un fast-food. Y a-t-il un parallèle à faire entre ces deux types de travail? Disons, peut-on les réunir l'un et l'autre sous le concept d'aliénation? Ou y a-t-il une différence qui surgit même à la lecture de votre livre, Claire Baglin?
À mon sens, il y, y a une différence. C'est pas un rapprochement que je souhaite faire, et c'est toujours ça que qui voilà. Je ne souhaite pas faire de rapprochement entre ces deux travaux. L'aliénation, c'est aussi en fait moins l'aliénation d'ailleurs que finalement le geste de travail en fait vraiment qui m'intéressait. Réunir peut-être cette figure du père et cette figure de travailleuse, donc d'équipière d'ailleurs, c'est le nom de son emploi. C'était plutôt sous le geste du travail que je voulais les réunir, plus que celle de l'aliénation d'ailleurs, puisqu'en fait la narratrice au fast-food subit pas non plus. Enfin, en fait, pour moi, c'était plutôt sur la question du geste, de la rapidité et de l'ennui.
Le geste, la rapidité et l'ennui dans les deux cas.
Oui.
Bon, ben, nous reviendrons là-dessus, parce que est-ce qu'on peut parler d'ennui aussi pour le travail du père ? Mais nous verrons. Marie-Hélène Lafont, vous, il s'agit d'une enfance, effectivement, et une enfance douloureuse. Il y a deux grands chapitres, avec un épilogue, mais deux grands chapitres, deux dimanches. Et le premier chapitre nous révèle les souffrances de la mère. La figure du père, on la voit ensuite. Et c'est très important d'ailleurs que le père aussi ait la parole. Souffrance de la mère, parce que c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une femme battue. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Marie-Hélène Lafont ?
Il s'agit d'une sempiternelle histoire de famille, comme sont sempiternelles les histoires de famille, de cellules familiales. J'aime la polysémie du mot cellule. Et là, la cellule est d'autant plus verrouillée que l'on est dans une ferme isolée, loin du regard de tous et loin des familles de chacun, d'ailleurs, puisque ce père et cette mère ont des familles. Et ces familles sont loin, elles sont à l'autre bout du département. Dans un contexte sociologique et professionnel très précis, on est paysan, donc on est vissé là où on habite parce qu'on traie les vaches le matin et le soir et qu'on transforme le lait en fromage. Donc on ne backdone pas à l'autre bout du département en voiture pour aller voir ses parents. Donc on est loin et on est seul.
On est loin, on est seul. Ouais.
Voilà, sur l'île. La ferme est une île. Ça n'est pas un hameau. On n'est pas dans un village. Et dans cette cellule-là, en effet, on le comprend. Dès le début, il y a une tension majeure et majuscule qui est imprimée à la vie de chacun par le père, celui qui dort sur le banc dans la première phrase. Et cette tension est celle que vous venez de nommer, la tension de la violence conjugale. C'est tout l'enjeu du texte, ça n'est pas le seul enjeu du texte, mais c'en est un. Et il importait pour moi de l'imprimer dans la phrase d'emblée, afin que ce qu'on appelle la violence, parce que c'est bien de ça dont il est question, passe par la tension de la phrase.
Alors ça passe par la tension de la phrase, par la précision, une précision terrible, parce qu'il est question, très vite en effet, de cette violence, ces coups. Cette femme est battue, et d'ailleurs on comprend bien d'ailleurs que les coups, ce ne sont pas des gifles.
Non.
Aujourd'hui on est un peu, pour des raisons liées à l'actualité, obsédé par la gifle, mais si on en prend un tout petit peu de recul, la gifle, dans l'histoire d'ailleurs, la littérature et surtout le cinéma en témoignent, c'est un geste féminin. La femme gifle, l'homme c'est autre chose, c'est des coups dans les jambes, et d'un autre côté, on a tout de suite l'image du corps de la mère, j'étais très frappé par ça. Son corps que les trois enfants ont traversé, elle s'est mariée et elle a eu en 3 ans, 3 enfants... 3 césariennes. Elle ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle est perdue dans les replis de son ventre couturé, hachée par les cicatrices des 3 césariennes. Ses bras, ses cuisses, ses mollets et le reste saccagés. Son premier corps, le vrai, celui d'avant, est caché là-dedans, terré, tapis. Il dit « tu ressens plus à rien ». Il dit « tu pues, ça pue ». Et il s'enfonce. Et elle dit, pour se calmer et tenir, il faut faire. Et lui, un peu plus tard, il crie qu'il est seul pour tout faire, qu'elle est un boulet, un tas. C'est vrai, il a raison, un tas, elle est devenue un tas, un gros tas. Il cogne dedans, dans les jambes, dans le ventre. Et cette description du corps qui n'est plus maîtrisé, est récurrente dans votre livre, et elle est, pour le lecteur, très forte et même très douloureuse, Marie-Hélène Lafont.
Elle est une épreuve pour le lecteur, elle est une épreuve à écrire aussi.
Oui, évidemment.
Et Il fallait cependant que ce texte en passe par là, sans surplomb, sans jugement, sans psychologie, sans pitié dangereuse. Mais il fallait passer par là. Et forcément, c'est le cas dans tous mes précédents textes, mais dans celui-là, la question du corps est obsessionnelle, elle emplit toutes les pages. C'est d'abord une affaire de corps.
C'est, oui, c'est ça, c'est d'abord une affaire de corps, vous dites sans jugement. Tout de même, on est accablé, et pas de pitié dangereuse, mais on vit tout cela avec la mère elle-même quand on lit le livre, Marine Hennefond.
Quand je dis sans jugement et sans pitié dangereuse, c'est de ma part, moi qui écris. Ensuite, il y a suffisamment de marge de blanc et de silence dans mes livres pour que chacun apporte son manger. C'est l'auberge espagnole. Et chacun va apporter sa compassion, éventuellement sa pitié. Voilà, j'ai presque envie de dire que ça n'est plus tellement mon affaire. Moi, il faut que je tienne ma phrase.
Sûr. Et c'est ça, c'est que ça ne s'insinue pas dans, ça ne s'insinue pas dans les phrases de Marie-Hélène Lafon. C'est quelque chose qui se décrit certes, mais qui n'est pas alourdi par ça justement. C'est le lecteur qui
prend ce relais. Il y a quelque chose qui appartient au lecteur, dont je conçois très bien d'ailleurs qu'il ait envie dans cette partie-là et dans les passages que vous venez de lire, qui sont répartis dans les 80 premières pages, je conçois très bien que le lecteur ait envie de s'en défendre, d'y échapper à cette rouste. Ça s'appelle la rouste, le dérouillé. Le mot aussi est
dans
le texte.
La rouste, oui, c'est là.
Et ça, c'est de l'intégrale. Hein.
Non,
la rouste, c'est intégrale.
On n'a pas tellement envie de s'en défendre quand on le lit, mais on a envie... Soit qu'elle se défende et on voit que c'est impossible, soit qu'elle se sauve. Et cette espèce de résignation, d'autant plus que ça a commencé 2 semaines après le mariage, est terrible. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Donc, elle-même
à la fin de ce, quand elle décide, elle a montré les traces de coups à sa mère, et là, elle décide, je ne reviendrai plus. Et donc, le lecteur éprouve un sentiment de soulagement. On est content pour elle. Et mais heureusement, je dirais, le roman ne s'arrête pas là. Donc le roman n'est pas un témoignage, ce n'est pas un livre inscrit dans une lutte, c'est autre chose. Simplement, le lecteur, oui, se dit, mais c'est pas possible, elle peut pas supporter ça tout le temps.
Elle-même dit, elle ne se comprend pas.
Elle ne se comprend pas.
Voilà, elle ne se comprend pas, elle ne sait pas où elle est passée, en quelque sorte. Et le premier passage que vous avez lu avec le corps tapis, le premier corps tapis, montre très bien à quel point cette femme est perdue en elle-même. Et elle a même, à côté d'elle, dans sa chambre, dans cette chambre qui est aussi une chambre conjugale, elle a le fantôme de son premier corps, à savoir la robe de mariée, qui est dans l'armoire.
Oui, c'est vrai.
À 1 mètre même du lit, le terrible lit.
Et il y a aussi un passage que je n'ai pas lu. Son corps, c'est un morceau de viande. C'est de la viande. Et elle est là dans cette espèce de résignation terrible. À la fin de ce premier chapitre, elle décide, nous sommes en juin 67, la guerre des 6 jours vient de se terminer, elle ne s'y intéresse pas.
Non.
Son mari, au contraire, est un lecteur de journaux.
Du journal La Montagne.
Du journal La Montagne,
du journal, un journal, le journal.
Le journal La Montagne. Et elle finit par s'en aller. Alors Claire Baglin, les parents de votre livre, ce n'est pas du tout la même chose. C'est le père, donc, c'est lui qui est plus présent, c'est Jérôme. La mère est évoquée, mais de manière assez discrète. Sylvie, je crois, c'est cela.
C'est ça.
Et donc, Jérôme travaille à l'usine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez choisi pour la première scène de la vie familiale une visite au McDo, enfin au fast-food. Bon, c'est vraisemblablement un McDo. Et donc, on voit les 2 enfants émerveillés, pressés après leur commande de manger, et le père qui pose des questions, qui dit combien ça coûte, la vendeuse est furieuse, finalement je crois qu'il ne prend que des frites, c'est ça?
En fait, c'est une scène qui m'intéressait parce que justement le père est plus perdu que les enfants.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il arrive, il a cette confusion enfantine, mais par contre il n'a pas l'enthousiasme des enfants. Donc il lui manque quelque chose, il lui manque cet enthousiasme, il ne partage pas cet enthousiasme, mais en fait il ne comprend rien. Et d'ailleurs c'est même presque la caractéristique de ce lieu, c'est-à-dire c'est un lieu qui lui apparaît absolument, et qui est proprement absurde par ces couleurs qui surgissent. On ne sait pas en fait où commander on ne comprend pas en fait ce qu'il y a tout autour. Les repères sont bousculés en fait.
Oui, il est gauche. Mais alors justement, est-ce que l'enfant que vous étiez et la femme que vous êtes maintenant éprouvait ou éprouve un sentiment de honte devant cette gaucherie ou plutôt un sentiment de tendresse?
Je dirais un sentiment d'infinie compassion, en fait, je crois. En fait, ce qui est très curieux d'ailleurs, parce que c'est un enfant qui éprouve une compassion pour son père, mais je crois que c'était surtout sentiment et effectivement de grande tendresse, en fait, cette façon de presque s'inquiéter pour le père, justement. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Comment il va s'en sortir, en fait, de cette mauvaise passe? Et d'ailleurs, c'est finalement la narratrice, la grande sœur, en fait, qui finit par passer la commande la première dans ce fast-food. Le père arrive après. Il arrive en dernier et en fait c'est lui le plus désemparé. C'est lui en fait qu'il faut presque sauver en fait de ce mauvais pas.
Et c'est lui qu'il faut sauver. D'un autre côté, quand ils sont assis, le père ne cesse de répéter « Vous êtes content, vous êtes content ».
Une fois que l'épreuve est passée, oui, il peut le dire.
C'est un père pour lequel d'emblée on éprouve une immense tendresse parce qu'il a pour lui, il a pour ses enfants une immense tendresse. Il veut faire plaisir à ses enfants, les titis. Oui. Il les appelle les titis, c'est quand même pas rien ça. Et il veut leur faire plaisir, il a une sorte d'attention. Et c'est la mère, en revanche, qui semble, elle, être plutôt du côté de l'autorité.
L'autorité, et je dirais même le quotidien, en fait, une sorte de, comme ça, de pratique, en fait. Les éléments pratiques, la vie pratique.
Mais la mère veille sur le père. Il est fragile, ce père. Il nous est donné d'emblée comme fragile.
Il nous est comme fragile.
Passé, déplacé. Où est sa place ?
Sans code, par ailleurs. D'ailleurs, il le sait pas. Il y a ce moment où ils sont en vacances et il faut qu'il passe un coup de téléphone pour réserver quelque chose. Et le dernier moment, il se retourne. Mais qu'est-ce que je fais si on me pose une question inattendue? Comment
exactement.
Je vais faire?
Il a besoin de la mère à tous les moments.
Oui, et c'est elle qui, on a l'impression que c'est elle qui maintient l'attelage. Elle le protège tout le temps.
Elle le protège. Alors, j'ai pensé en vous lisant, et ça vaut peut-être aussi partiellement pour vous, Marie-Hélène Lafont, à la très belle conférence que Roland Barthes avait prononcée au Collège de France. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Il rêve qu'il écrira un roman. Et il dit que ce roman, qu'il écrira peut-être, devait remplir trois missions. Mais je cite ici la première, parce qu'elle nous intéresse. La première, dit Barthes, serait de me permettre de dire ce que j'aime, et non pas de leur dire que je les aime, ce qui serait un projet proprement lyrique. J'espère du roman une sorte de transcendance de l'égotisme, dans la mesure où ce qu'on aime, ou dire ce qu'on aime, c'est témoigner qu'ils n'ont pas vécu et bien souvent souffert pour rien. Ces vices et souffrances sont recueillies, justifiées. Ainsi doit-on entendre le thème de la résurrection dans l'histoire de Michelet. Et j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire, il s'agit de dire une expérience inouïe. Le travail dans le fast-food, inouï et banal à la fois, mais inouï, justement, grâce au récit minutieux que vous en faites, mais aussi une manière de dire ce que vous aimez. Claire Baglin.
Tout à fait, et ça passe par ces scènes d'ailleurs, par ces scènes qui se suivent, alors d'abord en vacances comme ça, et ensuite dans l'appartement, et c'était l'appartement qui m'intéressait finalement dans les souvenirs d'enfance justement, de l'appartement, et en fait tout ce qu'il porte dans cette accumulation d'objets aussi. Et ça c'était, il y a un moment où je me suis rendu compte que j'avais envie d'être vraiment le témoin de ça en fait, de cette accumulation, et de ce qu'elle signifie.
Alors, diriez-vous que c'est un peu la même chose pour vous? Est-ce que c'est aussi la mission que vous assignez au roman? Ou bien, là, il s'agit pas simplement de dire ce que vous aimez, vous rendez compte d'une expérience extraordinairement douloureuse, mais d'un autre côté, il y a ce rapport au passé qui est le vôtre.
Il s'agit en tout cas d'inscrire et écrire une trace. Une trace de ce qui a été vécu, de ce qui a été souffert, de ce qui a été partagé. Une trace aussi des joies. Parce que dans les sources, les trois enfants, quand ils jouent dans la cour par exemple, ces trois enfants qui grandissent dans la peur, ont des joies. Ça n'est pas manichéen.
Non, ce n'est pas manichéen. Et ça, nous le verrons même avec le père.
Ils ont des douceurs.
même avec le père. Mais si j'ai parlé de Barthes, c'est aussi, après la lecture, Marie-Hélène Lafont, d'un autre roman, Les Pays. Parce que Claire, à ce moment-là, est à Paris, elle fait des études, donc d'une certaine manière, elle déserte, ce mot vous utilisez, mais d'un autre côté, il est dit d'elle qu'elle l'apprivoiserait et apprendrait à aimer et rechercherait cette singulière émotion suscitée en elle par l'apparition d'un corps, d'une voix, de paroles exhumées du monde premier, ancien, antédiluvien et voué à ce titre à la Morlan de ce qui a trop vécu, trop duré, trop servi, trop tenu et s'est usé à force d'être. Donc c'est ce monde-là, ce monde qui s'en va, ce monde paysan dont en effet vous voulez garder la trace, Marie-Hélène Lafont.
Inscrire une trace, et c'est en ce sens qu'il n'y a pas de désertion. Il y a une partance.
Voilà.
Il y a un arrachement et un attachement. Vous savez bien que je fais toujours.
Oui.
Je noue toujours ces deux mots-là. Et l'écriture coupe court à la désertion. Désertion rime avec trahison. L'écriture coupe court.
Oui, c'est vrai. Vous dites aussi dans le même livre, Les Pays, le bref séjour annuel à Paris permettait au père, nous reparlerons du père, de mesurer la distance creusée entre Claire et lui, par cela même qu'il avait toujours souhaité pour ses filles la réussite dans les études et un métier stable. Et là, ça me fait penser à la place d'Annie Ernaux, parlant du père, justement, peut-être sa plus grande fierté ou même la justification de son existence, que j'appartienne au monde qu'il avait dédaigné. Mais je ne suis pas sûr que vous en tiriez les mêmes conclusions qu'Annie Ernaux. Je ne suis pas sûr, Marie-Hélène Lafont, que vous écriviez pour venger votre race. Je reprends là une formule qu'Annie Ernaux a citée d'elle-même dans son discours au Nobel.
Oui, je n'écris évidemment pas pour venger ma race. Tout d'abord parce que quand je commence à écrire, je ne me situe pas consciemment dans une perspective politique. Je sais bien que l'acte d'écrire est un acte politique, mais je n'en ai pas conscience quand je commence. Alors que je crois que cette conscience a toujours déjà été installée dans l'esprit, dans le geste d'écriture d'Annie Ernaux. Premièrement, et deuxièmement, je ne suis pas passée par la case honte.
Oui, c'est
donc
ça.
Ça change tout.
C'est ça. Et vous non plus, il n'y avait pas d'horizon particulière.
Tout à fait, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure, effectivement. C'est la question de. C'est plutôt le glissement, ou du moins la tendresse qui est d'abord là, en fait, et c'est-à-dire le lien fort, en fait, qu'on a avec cette famille. Et c'est également ma position, du moins, en fait. C'est quelque chose qui reste là, et j'ai l'impression que si le roman en salle est parti du politique, en tout cas pour moi, il s'en est départi, autant avec les lectures que j'ai faites, d'ailleurs, qui m'ont vraiment fait dévier, en fait, de ça. Et je me suis rendu compte, à un moment, que j'avais envie d'aller plus vers justement ces instants-là, et plus vers ces rapports d'expérience, que vers quelque chose qui chercherait à tirer des conclusions ou à faire des trajectoires figées.
Oui, Marie-Hélène Lafont.
Ce qui m'a beaucoup attrapé dans votre texte, c'est que cet enfant, cette fille aînée, il y a le frère, Nico.
Oui, Nico, oui.
Qui constitue un contrepoint.
Nico. Un
contrepoint.
On a envie de faire sa connaissance.
Musical très intéressant. Et cette sœur, elle grandit. Donc son regard sur le père change. Elle est parfois gênée par ce que le père fait. Par exemple, quand on va chez Lebrac. Ça, c'est un grand moment.
Ah, Lebrac. Alors, arrêtons-nous à Lebrac. Lebrac, c'est un acteur qui a joué enfant dans La Guerre des Boutons. Il est devenu depuis longtemps adulte, il a quitté le métier, mais le père veut absolument aller le voir, et il y a donc une visite chez ce Lebrac, et le père se contente pas de le voir, il veut prendre des photos, ce que Lebrac, semble-t-il, n'apprécie que modérément, et ce qui en effet embarrasse ses enfants. Claire Baglin.
Ça m'intéressait vraiment de retranscrire cette émotion d'enfant, et d'ailleurs qui est très loin de celle de la honte, mais c'est plutôt effectivement cette gêne, c'est-à-dire le père est plus enfant que les enfants, et ne peut pas s'arrêter en fait simplement au seuil de la porte de chez cet acteur, qui d'ailleurs a vieilli en fait. C'est ça vraiment le problème de cette scène, c'est que cet homme a ensuite fait sa vie, pas forcément, et pour le père, cet homme est resté un acteur, alors même qu'il l'était seulement certainement à ses 10, 11 ans. Et en fait, il est resté profondément. Voilà. C'est vraiment une sorte de façon comme ça. Enfin, pour moi, ça me fait faire un écho, mais c'est cette façon de garder les gens dans ce qu'ils ont été. En fait, il n'y a pas de déchéance pour le père. Il n'y a pas de déchéance. Il est acteur.
Et j'ai lu, moi, cette scène une façon d'approcher la littérature. La fille le fait aussi. Il y a un salon du livre à la bibliothèque, il y a des écrivains, elle leur fait signer des autographes.
Et il y en a un qui ne veut pas.
Il y en a un qui ne veut pas, ça c'est magnifique. Il dit non. Bon, donc, elle approche la littérature à sa façon avec les autographes qu'elle fait signer sur son cahier, et lui aussi, il l'approche. Et à la fin, il dit, on a bien fait d'y aller.
Oui, bien sûr.
On a bien fait d'y aller. Oui,
vous avez l'art de la clausule, hein, parce que le « on a bien fait d'y aller », hop, ça nous ramasse toute la scène et...
Alors,
on y est.
Alors, je citerai une nouvelle fois Annie Ernaux. Là, c'est un article qu'elle vient de publier dans Le Monde diplomatique, Relevez la tête. Il s'agit des manifestations contre la réforme de retraite. Rassurez-vous, je ne vous demanderai pas de vous prononcer sur ce sujet-là. Je ne me prononcerai pas moi-même. Ce n'est pas cela qui m'importe, c'est autre chose. Annie Ernaux dit que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la conscience que l'État a tous les droits sur la vie des citoyens et peut reculer à sa guise le moment où l'on pourra enfin jouir de l'existence. C'est à l'espérance du repos, de la liberté, du plaisir que s'en prend la réforme voulue par Macron. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'idée que le travail, c'est toujours un esclavage et qu'il n'y a de jouissance, de plaisir, de liberté qu'une fois qu'on en est délivré. Alors, le travail au fast-food n'a pas de sens visible, c'est un automatisme. Et d'ailleurs, vous le décrivez très bien, Claire Baglin. Mais le travail du père, c'est autre chose. Moi, j'étais très sensible, justement, à son attachement pour la réparation. Cet homme se définit comme un réparateur. Au camping, ça j'adore ça, il s'acharne sur l'irréparable. Dès qu'il y a le pied d'un parasol qui se défait, pof, il s'en occupe. Il va à la déchetterie. Donc, il fait les poubelles, le père. Mais pourquoi? Pour des vieux ordinateurs, etc., qu'il est tout content de pouvoir réparer. Donc, la réparation, c'est plus qu'un travail, c'est plus qu'un métier. C'est presque la définition de son être.
Absolument.
Claire Baglin.
Il part enfin, en tout cas, l'intitulé de son travail, c'est bien qu'il est technicien dans la maintenance. La maintenance, c'est voilà, garder, faire survivre. Et d'une certaine façon, lui sauve, en fait, les choses aussi. Il est dans une perspective. En tout cas, il cherche à sauver. Et d'ailleurs, il cherche même à sauver ce qui n'attend plus d'être sauvé depuis longtemps. Et effectivement, ses ordinateurs. Mais c'est un trait comme ça que je auquel je tenais énormément, en fait. C'était à peu près tout, en fait. Tout ce que j'avais envie de développer sur ce père, puisqu'effectivement, ça le définit proprement. C'est-à-dire, et c'est aussi ça son malheur. C'est-à-dire qu'il est proprement déceptif pour les enfants, d'autant plus qu'il n'arrive pas parfois à réparer. Et c'est quand il échoue, et il échoue sans cesse. C'est aussi cette émotion-là d'enfant, en fait, face à un père dont c'est le métier, et il n'arrive pas à réparer. Il n'arrive pas à réparer l'ordinateur de la narratrice qui tout d'un coup s'arrête et l'écriture s'arrête. Et le père n'arrive pas à remettre ça.
La défaillance du père met en danger l'écriture de la fille. Oui. Puisque le premier texte est écrit et le premier texte est perdu dans les entrailles de l'ordinateur. Définitivement.
Et il a été retrouvé, le texte?
Non.
Vous avez été obligé de tout recommencer?
Ça a été... Non, j'ai plus recommencé du tout.
Ah, vous avez fait autre chose?
J'ai arrêté.
Ah oui.
Et ça pose aussi l'écriture...
Marie-Hélène Lafont.
Pardon, ça pose aussi l'écriture comme procédant du chaos. Parce que ce texte, il a été commencé dans le chaos héréditaire des grands-parents. Parce que le goût du père pour les objets de la déchetterie, les objets à réparer, on sait d'où il vient, on pressent d'où il vient. Il vient du creuset familial, parce que ce père a une famille. Et on comprend qu'il doit avoir une sœur qui ne sait pas manger toute seule.
Alors, plus précisément, c'est les grands-parents, donc les parents de la mère, en fait, qui fondent un peu cette chose-là. Et d'ailleurs, le père répète sans cesse à la mère, voilà, c'est héréditaire, ça doit venir de la grand-mère.
Héréditaire,
en fait.
Absolument.
Et bon, c'est quelque chose qu'on a en commun, je crois. C'est justement cette filiation-là, ou du moins la grand-mère qui donne à la mère, en fait, cette façon d'accumuler les objets. Et on a deux mouvements presque du côté de la mère, c'est l'accumulation. Du côté du père, c'est une autre forme d'accumulation, mais elle est dans la réparation, alors que la mère, elle, semble s'entourer d'objets et faire monter les objets au mur, en fait.
Mais le deuxième chapitre de votre livre, Marie-Anne Lafont, c'est le père. Un autre dimanche, le père seul depuis 7 ans. Et à un moment donné, il est dit de lui, il avait les vaches, je crois, et le métier de paysan dans le sang.
Oui.
Donc là encore... Nous sommes dans un tout autre registre que celui de l'aliénation. Et le père, sa réussite, c'est d'avoir maintenu cette ferme à flot, en dépit du départ de la mère, qui avait la moitié de la ferme. Et donc, ce métier est quelque chose de constitutif pour lui.
En ce qui le concerne totalement, ce métier relève profondément de la vocation. C'est une vocation atavique, organique, il l'a dans le sang. C'est même pour l'exercer qu'il est revenu du territoire de son autre vie possible, celle du Maroc, des 27 points de service militaire, où il a entrevu qu'on pouvait vivre autrement, avec un autre corps, sous un autre climat, et avec une autre femme.
Avec une autre femme, Suzanne.
Dont on comprend bien, on comprend bien qu'il ne se comportait pas du tout avec cette autre femme, comme avec celle qui est devenue la mère de ses enfants. Alors, il y a vraiment une vocation à être paysan. Il aime ce métier et on comprend d'ailleurs qu'il le fait bien, qu'il le fait d'une manière qui est gratifiante et qui lui donne une image positive. Le rapport du père de votre livre au travail me semble moins irénique, plus nuancé. Mais en tout cas, le travail... Parfois, malheureusement, n'est qu'une aliénation.
Bien sûr.
Et une douleur terrible. Enfin, ça, je crois que ça existe véritablement.
Évidemment que ça existe.
Voilà, voilà.
Mais ça n'est pas toujours le cas.
Ça n'est absolument pas toujours le cas. Et dans mes livres, en tout cas, le travail paysan est très souvent vécu de l'intérieur comme quelque chose qui a du sens, véritablement.
Et c'est vraiment la question du sens, je pense.
La question
du sens. C'est la question du sens, puisque dans le fast-food dans salle, le sens est aussi disloqué que les tâches, en fait, peuvent consister à remplir des gobelets. Et en fait, le sens, c'est aussi avoir vu sur l'ensemble des tâches, ou du moins l'ensemble des étapes de quelque chose qui se constitue. Et c'est quand on perd, en fait, peut-être cette fragmentation absolue, c'est peut-être là, en fait, le véritable problème.
Alors, Claire Blagler, justement, je voudrais lire un extrait de votre livre. « Un papa renverse dans mes mains jointes une quantité de centimes. Sur l'écran de surveillance, un embouteillage de voiture. Une moto klaxonne. Un conducteur sort de sa voiture et empoigne le motard. Un monsieur passe avec un canon où il y a écrit qu'il a faim. Avec un carton, pardon. Où il y a écrit qu'il a faim. Des clients referment la vitre sur ses doigts. Dans mon casque, voix 2, j'entends une femme qui crie au téléphone. Mais putain, la moindre des choses, c'est de venir au rendez-vous, Jonathan. Si t'es pas capable de comprendre ça, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ça, tu me l'as déjà dit, donc ta gueule. Je veux pas t'entendre, tu m'écoutes, parce que la dernière fois, je t'avais dit non, mais t'avais dit que tu étais prêt. J'y crois pas, arrête. À l'arrière, un bébé pleure, la femme raccroche, je termine de compter, et le papa se penche vers moi. Excusez-moi, c'était la tirelire des gamins. Là, vraiment, on est dans une sorte de chaos, de chaos total. Mais alors, pour en revenir à votre livre, Marie-Hélène Lafont, Les Sources, on voit le père. Et le père, il a des insomnies. Il ne dort pas. Il ne dort jamais.
Oui. Il dort sur le banc, il fait la sieste.
Alors, on se dit, est-ce que ces insomnies procède en lui du regret ou du remords. Cela ne semble pas le cas parce que, il est dit un peu plus loin, il avait fallu que ça tombe sur lui, une femme nulle et nulle, nulle en tout. Molle, nulle, vide. Il pense de moins en moins souvent à cette vie, il était toujours prêt à exploser et plus elle avait peur, plus il s'énervait. Donc, cet engrenage, il le connaît, mais il n'y a pas d'examen de conscience.
Aucun
examen. Non. Et d'un autre côté, et ça c'est très courageux à l'époque où nous vivons, où sous prétexte de politique, on tombe dans le manichéisme, dans le sommeil du manichéisme, il y a ces dernières lignes. Et ces dernières lignes sont incroyables. C'est les filles. Ça concerne les filles qui lui rendent visite le dimanche, c'est ça?
Disons que deux semaines par an,
voilà, deux
c'est écrit
par
dans
an
le
seulement.
Jugement,
voilà.
Les filles sont chez lui. Le reste du temps, il les voit un dimanche, enfin de façon très réglée, chez ses propres parents.
Ah oui.
Parce que la géographie s'en mêle. Elles habitent loin, les filles, à l'autre bout du département. Mais deux dimanches par an, elles sont chez lui. Et le rituel a lieu à ce moment-là.
Et le rituel, ce qu'il préfère quand les filles sont là, c'est le dimanche matin. Elles lui lavent le dos. L'une ou l'autre, à tour de rôle, ça arrive deux fois par an. Ils sont seuls dans la cuisine, un peu avant 10 heures. Ils préparent un premier gant bien chaud et savonné sur le bord de l'évier, à gauche, et un deuxième à droite, très chaud aussi, mais sans savon, pour rincer. Elles descendent, remontent plusieurs fois, de la nuque au rein, sans mouiller la bande élastique du slip kangourou, en écartant les doigts de la main dans le gant, mais sans presser pour éviter de faire rouler des gouttes. Elles ne disent rien, lui non plus. Elles s'appliquent et elles y pensent chaque dimanche matin, pendant le reste de l'année, quand elles ne sont pas là. Et c'est comme ça que se termine le chapitre sur le père, Marianne.
C'est comme ça que le père est père. Il est père des filles. Il ne peut pas être père du fils, et il le sait. Et donc...
Il le sait d'abord, il a été terrible avec le fils.
Voilà.
Fabrique de pauvres types. Donc,
et il sait...
Le contact n'est plus possible.
Il sait, il sent qu'il n'aura pas de suite. Mais les filles font honneur. Et il peut être père des filles.
Et font honneur parce que, notamment, elles ont de très bonnes notes en classe. Hein.
Et ça. Il comprend qu'elles font des études.
Voilà.
Et il comprend comment va le monde. On est en 1974. Il comprend que la place de ses filles ne sera pas ataviquement ce qu'était la place des femmes dans les générations qui les ont précédées. Ça, il l'a compris. Peut-être parce qu'il lit le journal. Et on s'inscrit d'ailleurs dans le moment de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. J'ai commencé ce morceau de texte pendant les élections présidentielles l'année dernière au mois d'avril. Et d'un seul coup, je me suis dit, il faut mettre Giscard d'Estaing là. Parce que c'est fondamental hein, dans l'histoire des couples. Et l'histoire des femmes aussi, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Il n'empêche que cet homme-là, il a le sens de l'histoire. Et mai 68 est passé par là. La première scène, c'est 67. Là, on est en 74. Mai 68 est passé par là, ce qu'il appelle, lui, la révolution des femmes. Et il sent que ça l'atteint dans sa ferme sur son île. Il le sent. Et en même temps, il sent que parce que mai 68 a eu lieu, parce que Giscard d'Estaing vient d'être élu, parce que les filles auront la majorité à 14 ans, ces filles vont pouvoir, à 18 ans, pardon, elles en ont 14, vont pouvoir, n'exagérons rien.
On n'en est pas là.
Voilà.
Ça viendra peut-être, mais patientons.
Nous ne le verrons pas.
Espérons.
En tout cas, il sent que ces filles vont pouvoir s'inventer une autre vie. Et c'est ce que vous avez lu tout à l'heure exactement dans les pays.
Oui.
C'est ça.
Et il le sent et il l'accepte.
Oui.
C'est ça qui est extraordinaire.
Oui. Oui.
En dépit de ses préjugés, en dépit de sa violence, il l'accepte. Oui. Et d'une certaine manière, il l'accompagne.
Oui, il l'accompagne avec son argent. L'argent compte beaucoup
en
pour
plus.
Lui. Hein. Voilà. Il sait, il aura de quoi payer les études. Voilà. Mmh. Et il sait aussi, hein, il est aussi en ce sens, vous voyez, l'héritier d'un atavisme, parce que pour lui, de toute façon, la place des filles n'est pas dans la suite. La succession
oui,
dans une
ça.
Ferme, ce ne sont pas les filles.
Ce
serait le fils, mais son fils à lui, le fil du fils est coupé.
Et c'est lui qui l'a coupé.
Ah oui.
C'est totalement
oui.
lui.
Oui, bien sûr.
Alors, parle d'études, les filles font des études. Alors, je vous demanderai, Claire Baglin, quelles études a fait la narratrice, ou plus simplement, quelles études vous avez faites vous-même, Claire Baglin?
Celle de la narratrice du roman, on ne le sait pas. On sait juste qu'elle fait des études. Et d'ailleurs, c'est un problème pour le directeur du fast-food, puisque ses études pourraient menacer la durée de son travail là-bas. Les miennes, moi, j'ai fait des études de lettres. J'étais en classe préparatoire et j'ai fait ce master, notamment voilà, au Havre, de création littéraire, pendant 2 ans.
Et vous n'avez travaillé dans un fast-food pour une durée très déterminée, c'est ça. C'était jamais votre intention de devenir employé à vie au fast-food.
Non, la plupart des équipiers au fast-food n'y restent que d'ailleurs en vérité un ou deux ans, et dans le roman c'est mentionné, c'est-à-dire l'ancienneté dans un fast-food serait d'à peu près 6 ou 7 ans, ce qui est déjà énorme en fait. Mais la plupart des personnes,
même les managers,
tout à fait. Et en fait c'est une équipe de travail qui est celle qui est formée uniquement d'étudiants en fait. C'est-à-dire on peut avoir des managers qui ont 18 ans.
Mais vos études vous ont conduit à quel métier maintenant? Moi, à part l'écriture.
J'ai surtout été libraire en fait. Enfin, j'ai fait plusieurs métiers, mais je me considère comme libraire parce que c'est le métier que j'ai fait le plus souvent, que c'est celui qui me semble être, je sais pas exactement comment le définir, mais c'est le métier le plus important pour moi. Après, j'ai fait d'autres choses, mais libraire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais.
Et est-ce que vous avez jamais envisagé, avec les études que vous avez faites, les diplômes que vous avez obtenus, d'enseigner? Marianne Lafont est professeure de lettres en collège. Et vous, est-ce que ça fait partie des perspectives d'existence, Claire Baglin?
C'est une question à laquelle j'ai jamais encore répondu, mais en fait j'ai fait ça de façon un petit peu dramatique. Mais après ma licence, au moment où j'ai compris que j'allais faire ce master donc en école d'art pour écrire, j'ai jeté l'ensemble des cours que j'avais gardés pour être professeur, en disant d'accord. Je ne serai pas professeur.
Ah oui, c'est ça.
En fait, presque comme si j'ai un peu dramatique peut-être, mais j'ai scellé un peu en me disant je jette ces cours entassés pour être professeur parce que je ne le serai pas en fait.
Et vous ne vouliez
pas. Une sorte de choix. Alors, parce que j'ai toujours cru que j'allais être professeur, enfin bon. Mais voilà.
Et donc vous n'avez. Parce que malheureusement, vous parliez de vocation, Marianne Lafont. Les gens doués choisissent de plus en plus rarement ce métier, comme si c'était de moins en moins une vocation. C'est un peu la vôtre quand même, Marianne Lafont.
Alors, au risque de vous décevoir, il faut bien que je vous dise, ou que je vous avoue, ou que je vous confesse, Alain Finkielkraut, que dans mon cas, ça n'était pas une vocation.
Mais c'était vous ne décevez pas du tout.
C'était une orientation que je qualifierais presque, en reprenant un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, d'atavique, c'est-à-dire qu'il fallait devenir fonctionnaire.
Ah oui.
Pour mon père, il fallait que ma sœur et moi, nous soyons fonctionnaires, pour être à l'abri avec un revenu régulier. C'est la chanson de Jean Ferrat, hein. Elle est extrêmement juste. Hein. Donc, comme on apprenait bien à l'école, très naturellement, on aurait dû devenir institutrice normalement. On a poussé le bouchon un peu plus loin, et nous sommes devenus, elle et moi, professeurs. Je n'avais pas de vocation au début. J'ai appris à aimer ce métier.
Et vous l'aimez?
Ah oui.
Et vous continuez à l'aimer?
Je persiste et signe.
Ben, c'est très bien. Alors, l'éditeur, Marie-Hélène Lafont, votre éditeur, dit « Même si depuis son premier roman, Marie-Hélène Lafont n'invente jamais rien, jamais elle ne se sera autant inspirée de sa propre histoire. » Ça me conduit à vous poser une question sur les sources, c'est-à-dire 67, la mère s'en va, 74, le père, et on a envie quand même de savoir, mais pendant ce temps-là, qu'est devenue la mère ? Ce que ce livre ne dit pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes?
Cette mère s'inscrit en creux. On comprend qu'elle a une autre raison sociale. Elle n'est plus propriétaire d'une ferme, mais...
Est-ce qu'elle vit chez ses parents?
Elle vit chez ses parents, on le comprend. Oui. Ou dans l'orbe immédiate de sa mère, hein, parce que celle qui porte la culotte chez les parents, c'est sa mère.
C'est sa mère, ça on le voit tout au long de...
Laquelle mère lui procure un emploi aussi. Même si on comprend bien, dans les ruminations du père, qu'il doute fort qu'elle soit capable de tenir vraiment cet emploi. Mais la mère lui procure un emploi parce que cette mère a eu la bonne idée de créer un élevage de volailles en lien avec un volailler d'Aurillac. La préfecture est à proximité suffisante pour qu'elle puisse, la mère, créer cet élevage. Et donc, elle a créé une sorte d'emploi, au fond, pour sa fille. On comprend que les enfants, en fait, et la mère, sont réfugiés dans l'orbe de la grand-mère, qui est une femme puissante. Une maîtresse-femme, d'ailleurs son gendre lui-même le reconnaît. Hein, et qui, très certainement, maintient l'attelage. On comprend ça, on n'en sait pas plus. Mais on voit bien que les filles étudient, elles vont aller au lycée, il y a des perspectives. Et celui, au fond, dont on ne dit presque rien, hein, qui se dessine comme une silhouette, comme ça. C'est Gilles. C'est le fils.
Oui, Gilles, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'il a été disqualifié très violemment par le père, pauvre type, fabrique de pauvre type. Mais effectivement, le livre ne dit pas, il ne dit pas non plus si la mère a refait sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que le père peut avoir des femmes sans payer, mais il n'en ramène pas à la maison.
Probablement parce que, de manière un peu instinctive, il se méfie de lui-même. Ramener une femme dans cette maison, c'est peut-être courir à nouveau le risque d'être dépassé par sa propre violence. Il le dit, ça aurait pu mal finir.
Ça aurait pu mal finir.
Il le dit, lui-même. Donc, il ne ramène pas de femme sur l'île. Voilà. Au fond, la seule présence féminine sur l'île, c'est celle de Madame Chassagnol, qui tient très bien la maison, alors qu'il regrettait beaucoup que sa femme ne l'atteint pas bien du tout. Et les filles. Les filles ont une présence intermittente, mais elles ont tout de même une présence dans cette maison. Et il y a une photo des enfants dans cette maison.
Il y a une photo des enfants.
Il y a une photo des enfants. Et elle a été prise à Noël, le dernier Noël, avant que la mère ne prenne la décision de s'arracher et d'arracher ses enfants à la peur. Il s'agit de sauver.
Les sauver, eux,
absolument.
Comme elle s'est sauvée, elle.
Et au fond, mais elle ne pose pas l'enjeu de se sauver, elle. Elle pose comme enjeu sauver les enfants. Sans doute s'est-elle sauvée, elle aussi.
Elle aussi. Merci beaucoup, Marie-Hélène Lafont, Claire Baglin. Alors, je rappelle le titre de vos beaux romans, Marie-Hélène Lafont, Les Sources. Il est publié, vous êtes une romancière fidèle, chez Buchet-Chastel. Claire Baglin, votre premier roman, en salle, est publié aux éditions de Minuit. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Hervé Dubreuil. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre « La valeur du mérite ». Mes invités seront Annabelle Alouche et Nathalie Hennick. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.